Bonsoir, c'est GMC+, c'est Yves au micro. Vous êtes sur Radio Libertaire 89.4. N'oubliez pas de consulter la page de la radio, radiolibertaire.org, l'agenda. N'oubliez pas non plus de consulter ma page Facebook GMC+ ou Yves Jazzlib. Et je vous rappelle que vous pouvez réécouter l'émission pendant 12 mois après la fin de la diffusion sur le podcast de la radio, où vous avez l'ensemble de la grille des programmes, l'ensemble de l'agenda. Et ce soir, c'est une émission enregistrée et qui est consacrée de nouveau au compositeur Béla Bartok. Alors ce soir, je vous propose plusieurs choses, notamment le concerto pour orchestre, qui a été composé en 1943 et qui, en 1945, à la demande de Serge Koussevitzky, pardon, Bartok va composer une seconde cadence finale pour le cinquième mouvement. Alors, c'est effectivement une œuvre en cinq parties. La première s'appelle Introduzione, Andante non troppo, Allegro vivace. Alors, on utilise beaucoup les termes italiens en termes de tempo. La deuxième partie s'appelle Giuoco delle coppie, Allegretto scherzando. Alors, ça veut dire jeu de couple, c'est-à-dire qu'en fait, Béla Bartok va introduire la deuxième partie avec par des couples de deux instruments identiques, deux clarinettes, etc., etc. Ensuite, la troisième partie s'appelle Elegia andante non troppo. Ensuite, la quatrième partie Intermezzo interrotto, Allegretto. Et enfin, le final Pesante presto. Alors, je vous ai pris alors pour l'occasion une version assez ancienne qui date de 1959, je pense, avec Geza Honda au piano. Et l'orchestre de la radio pardon, l'orchestre symphonique de la radio de Berlin, je vais y arriver, dirigé par Ferenc Fricsay, ou Fricsay, je ne sais plus comment on dit, très très précisément. On situe un peu cette œuvre dans l'esprit ou dans le sillage du divertimento dont je vous avais parlé la dernière fois dans l'émission consacrée à Béla Bartok, et notamment du mandarin merveilleux qu'on a aussi sous-titré mandarin miraculeux au début, mais c'est plutôt merveilleux. Et donc on est dans une œuvre orchestrale où on retrouve un petit peu tous les gimmicks de Béla Bartok, et il y a là un certain nombre de choses qu'on va retrouver dans ces lubies, on va dire, c'est-à-dire la musique folklorique. On va même retrouver des choses un petit peu liées à la musique modale arabe, voilà, ce genre de choses. Et puis vous retrouverez des thématiques pour nous, enfin pour vous, amis jazzmen qui écoutez mon émission, on va retrouver des choses, notamment, je ne sais plus dans quel mouvement, mais je pense que c'est dans le quatrième, des thèmes qui évoquent par exemple le Néfertiti de Wayne Shorter. Et puis il y a beaucoup de choses que le cinéma ou même les séries télé vont s'emparer, je pense notamment à la série américaine hyper célèbre, Les Envahisseurs, vous savez, avec Vincent les a vus, il sait qu'ils existent. Et il y a là une musique avec des effets un peu dramatiques qu'on retrouve, qui, à mon avis, ont été complètement inspirés. Alors, je pense que énormément de compositeurs de musique de film se sont inspirés de tous ces musiciens de cette époque. Je ne vais pas continuer à blablater plus avant sur ce genre de choses. Je voulais juste vous dire que Béla Bartok était quelqu'un d'assez pessimiste. Il avait fui la Hongrie, évidemment, par rapport au fascisme, hein, donc on voit que rien de nouveau sous le soleil, mais qu'il avait été un tout petit peu, comment dire, agacé par le succès de Chostakovitch sur la symphonie 1905. Bon, donc il a essayé de faire un petit peu dans la fin de ce concerto une sorte d'humour un peu revanchard par rapport à ça. Voilà, donc je vous laisse en compagnie de ce concerto pour orchestre qui est vraiment, je dirais, la quintessence même de ce qu'est l'œuvre de Béla Bartok. Alors juste quelques mots avant d'écouter cette œuvre. Juste, je rectifie en fait Le concert a été enregistré en 1957. Voilà, donc c'est beaucoup plus. Alors j'avais une autre version excellente également avec Georges Solti à la direction et l'orchestre philharmonique de Chicago. Mais je ne fais pas partie de ces émissions avec des comparatifs parce que c'est un peu compliqué. Je vous ai choisi celle-ci pour plusieurs raisons. La première, c'est que Ferenc Frixai était élève de Béla Bartók et donc il a été extrêmement baigné par la culture bartókienne, on va dire. Et il disait que Ferenc Frixai disait que Bartók était un humaniste. Et qui a en fait marqué complètement son existence de jeune musicien. Alors Ferenc Frixai disait également que la musique de Béla Bartók évoquait pour lui des ténèbres, qu'il faisait en fait que ressentir et pressentir ces ténèbres sans vraiment les connaître. Et donc il y a évidemment toute cette notion d'ombre inquiétante, fantomatique, qui vont des hallucinations en fait. Une œuvre, ce sont des œuvres bartókiennes très tourmentées. Je pense notamment aux pièces pour piano. D'ailleurs, nous écouterons si nous avons le temps comment dire, le concerto. Je ne sais pas si nous aurons le temps, mais en tout cas les concertos pour piano et orchestre qui sont aussi d'une très très grande difficulté technique. Je peux vous en parler parce que quand j'étais pianiste étudiant, je me suis frotté aux premières pièces de Bartók et c'était pas très très facile. Voilà, donc beaucoup de tristesse malgré tout dans ces compositions. Évidemment, on comprend que la faillite du genre humain de la Deuxième Guerre mondiale et qui continue malheureusement sous notre époque ait pu influencer à ce point sa musique, ce qui est assez logique. Et il est mort en 1945, un peu oublié des muses, comme on dit. Le principe directeur que Ferenc Frixai disait toujours plus haut et toujours plus parfait. C'est ainsi que Bartók put parvenir à résumer à l'un des plus hauts degrés la musique du XXe siècle. Je ne saurais pas mieux dire. Et je vous laisse en compagnie de ces cinq mouvements.
Thank you.
Vous êtes sur Radio Liberté, CGMC+. Je vous propose maintenant une autre œuvre peu connue de Béla Bartók, qu'il a composée en 1904 pendant son séjour à Görlitz en Slovaquie. Il s'agit de la Rhapsodie pour piano et orchestre, opus numéro 1. Alors, c'est une œuvre rarement exécutée et elle est, comment dire, représentative du premier langage de Bartók. Notamment où il se soustrait plutôt à l'influence du folklore qui l'avait un peu habité. En fait, cette rhapsodie, elle se réclame des rhapsodies hongroises de Liszt, mais il va quand même s'en affranchir dans la mesure où il va éviter les poncifs, Tzigane un petit peu trop appuyé et même limite un peu vulgaire, pourrait-on dire. Voilà, donc je vous laisse en compagnie de cette œuvre rare et au piano, je vous signale qu'il y a Gesanda. Je vous rappelle, c'est l'orchestre symphonique de la radio de Berlin et celui-ci a été enregistré en 1960.
Thank you.
GM, c'est plus Radio Libertaire 89.4. Et donc, nous allons maintenant terminer par une suite de danse. Une œuvre qui date de 1923, qui a été jouée avec beaucoup de succès, puisque elle se situe un petit peu dans l'esprit de la suite du Mandarin merveilleux, avec beaucoup de changements de tonalité, des choses liées au folklore. Des choses très vives avec des petites ritournelles, mais bon, à la Bartok, avec quand même des obsessions pour les écarts de tonalité, voilà, travail sur la tierce mineure, des choses qu'on va retrouver dans le blues, hein, voilà. Je pense qu'il n'était pas complètement insensible à cette musique. Et donc, on va également, il va faire intervenir des timbres et des tonalités très proches des bourdons, des cornemuses, et quelque chose qui rappelle un petit peu aussi les musiques orientales, voire un petit peu arabes. Voilà. Rendez-vous donc dans un mois pour GMC+, pour d'autres aventures musicales, et dans une semaine pour la suite des nouveautés sur JazzLib, et puis rapides hommages aux disparus, hélas, pour certains, un peu trop tôt. Voilà, bye bye, et bonne semaine. Ouh là là, j'allais complètement oublier de vous donner l'essentiel, évidemment. Il s'agit de l'orchestre symphonique de Chicago, dirigé par Sir George Solti, qui a rencontré Bartok lui-même, hein, et qui lui a tourné les pages, et qui a été aussi Bartok au concours qu'il avait présenté, comme dit George Solti, avec beaucoup de difficultés, j'imagine. Voilà, c'est un enregistrement qui date de 1981. Et je voulais juste insister, dernier point sur la spécificité aussi de Bartok, c'est son traitement rythmique, quelque chose qui est un petit peu dans l'air. Stravinsky aussi va utiliser ces rythmiques assez martelées. Je pense qu'ils ont été influencés par le jazz. Je suis un peu navré de le dire, mais je pense que on est à cette époque du modernisme, les machines. Ces tempos. Voilà, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans le Sacre du Printemps, évidemment, chez Shostakovich aussi, et puis Bartok, avec une espèce d'exacerbation de ces rythmiques. Voilà, je vais y arriver. Donc rendez-vous dans une semaine pour JazzLib et dans un mois pour GMC+. Bye bye, GMC+, vous remercie et Fraternity Swing nonobstant. Thank you.
contente de ça.
Aujourd'hui, c'est un radio libertaire, n'oubliez pas, monsieur. C'est un radio libertaire, n'oubliez pas, monsieur.
C'est l'heure d'Epsilonia.
Téléphone.
Et soudain, tout disparaît. Dans un flamboiement rouge qui embrase le ciel, le parpaing s'élève et retombe sur la terre ferme, dans l'angle mort de la pierre. Le ciel, le parfum s'élève et retombe sur la terre ferme dans l'angle mort de la pierre. Tout le monde est sain et sauf. Le bien a enfin triomphé.
Epsilonia électronique qui revient de vacances et qui va vous proposer à plusieurs électrons libres justement et ce soir, dont Bérangère Maximin, on va commencer avec elle, Christian Fenaise, Michel Tipin-Schneider, Lucie Prodhomme, Stéphane de Gérondeau, Michel Chion, dans des ordres, Francis Larbor, Yéyo Moroder, enfin bon, tout un programme excellent, vous allez voir. On commence d'abord avec une pièce qui s'appelle Comora de Bérangère Maximin, une pièce de 2020, et donc Pilonia Electronique, c'est parti, on est rentré.